le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation et aujourd'hui, les adultes qui retournent à l'école, apprendre, se former ou reprendre des études interrompues trop tôt, c'est parfois un rêve ou une ambition secrète, très largement partagée dans le monde d'ailleurs, pour évoluer dans son métier, pour changer de vie ou tout simplement se réaliser personnellement. Les voisins, les voisines, si vous avez repris des études, appelez-nous dès maintenant pour nous parler de vos motivations, de vos difficultés et de vos fiertés. N'attendez pas la fin de l'émission pour composer le 33 1 84 22 71 71. Camille Nérand attend vos appels au standard. En studio, je reçois Isabelle Dubose. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du conseil en formation à l'Association de formation professionnelle des adultes,
oui.
L'AFPA, qui est le premier, qui est, c'est le guichet, le premier guichet en France, hein,
oui.
Pour accueillir des adultes qui veulent reprendre une formation. Nous entendrons également l'expérience canadienne des adultes qui retourne à l'université, cette fois qui la découvre parfois même pour la première fois. Marie-Hélène Simard sera au téléphone avec nous, elle est psychologue au centre d'aide aux étudiants à l'université Laval à Québec. Et puis en fin d'émission, la chronique bourse d'études de Sinatusaka pour les étudiants de moins de 30 ans. Cette fois-ci, bourse de master de la fondation allemande Konrad Adenauer pour les étudiants africains. Voilà, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous lis quelques messages qui sont postés sur notre page Facebook. Comi, qui est à Dakar, nous dit « Je suis chef cuisinier depuis 18 ans. J'ai quitté les bancs de l'école après la 4e et cette année, je me prépare à y retourner pour améliorer mes capacités. Seulement, est-ce que je vais être à la hauteur ?» pose comme question Comi. « Je révise déjà des annales de 3e pour me rassurer. Avez-vous des conseils à me donner ?» C'est formidable quand même.
C'est extraordinaire et on est au cœur des questions qui se posent.
Bon, alors qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Comi ?
Je crois que...
Il a raison déjà de s'y prendre un peu à l'avance, hein, de se remettre un peu dans le bain peut-être avec
oui,
des annales.
Et puis moi,
ça
je
va peut-être le stresser aussi, je ne sais pas.
Alors moi je lui donnerais comme conseil de réfléchir à tout ce qu'il a déjà fait déjà. Parce que concrètement, quand on reçoit des personnes qui souhaitent se former, elles sont souvent très 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 désarçonnées en se disant « Mon Dieu, ben voilà, c'est ça, c'est la question, est-ce que je vais être à la hauteur ?» Eh bien, quand on a passé 18 ans à faire le métier que fait ce monsieur, moi, je suis sûre qu'il a des compétences. Il ne sait peut-être pas en parler, mais ses compétences, elles vont sacrément lui servir.
Et le coup de feu, ça peut servir. Hein,
mais
ça.
Complètement. Donc, je pense qu'on reparlera de cette question de compétences et de comment on arrive à les identifier et comment on voit ce qu'on sait faire, en fait. C'est très important.
Moussa, lui, est toujours à Dakar. Il nous dit que ce n'est pas facile à faire, mais c'est passionnant, comme le dit le dicton. Le savoir n'a pas d'âge. D'ailleurs, je suis enseignant en primaire. Et je vais faire une formation de 2 ans pendant laquelle je serai dans la même classe que mes neveux. Serge, à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, après 15 ans de vie professionnelle, nous dit Serge, je suis retourné à l'école pour finir le lycée. C'est à la fois stressant, difficile et amusant. Jean, à Ouagadougou, au Burkina, je suis enseignant en classe de CE2 et cette année j'ai 3 élèves qui ont plus de 25 ans en CE2 et qui sont pères de famille. Ils ont décidé de reprendre l'école parce que quand ils étaient jeunes, pour des raisons variées, ils n'ont pas pu aller au-delà du CE1. Je trouve cela très brave de leur part car il y a un réel écart d'âge avec les autres élèves. Amir est à Libreville, au Gabon. Il nous dit qu'il a dû reprendre l'école à 42 ans pour valider son BEPC, un diplôme en 2 ans, qui est très important dans son pays, nous dit Amir, parce qu'il permet d'obtenir une prime de l'État, la prime d'incitation à la performance. D'ailleurs, une prime, entre parenthèses, qui est, quand elle n'est pas payée au Gabon, donne lieu régulièrement à des grèves. Amir poursuit son histoire. C'est très difficile parce que j'ai dû continuer à aller au travail en même temps pour continuer à gagner ma vie. Les élèves étaient très jeunes, me jugeaient, me dévisageaient. Et par contre, je n'ai pas eu de mal à m'entendre avec les professeur. D'ailleurs, l'un d'entre eux est même devenu mon ami, ce qui n'a pas amélioré ma relation avec les élèves plus jeunes. Voilà, allez, appelez-nous. Maintenant, on a envie de dialoguer avec vous et peut-être aussi vous pouvez nous questionner au 33 1 84 22 71 71 si vous envisagez ou si vous avez déjà repris tardivement le chemin de l'école.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
On avait envie de donner la parole à Apolline dans ce studio. Bonjour Apolline.
Bonjour.
Les auditeurs connaissent votre nom parce que vous êtes réalisatrice à RFI. Vous êtes la réalisatrice de l'émission Autour de la question. Mm-hmm. Et on s'est dit, mais c'est vrai, c'est trop bête de ne pas vous donner la parole parce que vous avez repris le chemin du lycée. Alors pas très tardivement, parce que de toute façon, vous êtes jeune. À quel âge vous êtes retournée au lycée ?
Au lycée pour adultes, j'étais dans ma 20e année, je pense.
Et c'est
ça. J'avais redoublé quelques classes au collège et une au lycée. Et puis, j'avais pas envie de repasser mon bac avec les élèves de terminale qui avaient donc 2 ans de moins que moi. Je préférais passer mon bac avec des gens qui avaient un âge plus âgé.
Vu de loin, on se dit, mais quelle différence, 2 ans. Enfin, mais pour vous,
c'est
une
mentalité, grosse différence. C'est la motivation à aller en cours, à décrocher son diplôme pour pouvoir passer à autre chose. Enfin, moi, j'avais vraiment envie de passer à mes études supérieures et puis dans le domaine du travail. Et le lycée pour adultes me permettait d'avoir un job en journée et d'aller étudier le soir.
Donc tout est adapté. Il y a des classes avec des élèves moins nombreux.
On est 10 ou 15. Enfin, en tout cas, moi, dans mon souvenir, c'était le cas. On a deux cours de 2 heures, de 18 à 22 heures. Voilà.
Oui, 14e. Pas de prof qui s'énerve pour dire chut, concentrez-vous.
Non, voilà.
C'est pas du tout la même ambiance.
Non, puis un bon esprit d'équipe. On se motive les uns les autres. Effectivement, il y a des personnes qui reprennent le chemin des études qui ont beaucoup d'appréhension et on se...
C'était votre cas ou pas ? De revenir sur le chemin de l'école,
non,
forcément après des échecs ?
Oui, j'avais vraiment envie de décrocher mon bac, mais je savais qu'il me le fallait pour poursuivre dans mes études. J'avais besoin d'un quelque chose d'efficace, avec pas un emploi du temps interminable, étalé sur toute une semaine.
Oui, mais en même temps, c'est difficile, travailler dans la journée, aller en cours le soir...
Oui, c'est vrai que c'est un rythme soutenu, mais ça dure un an. Quoi.
Ouais. Rétrospectivement, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir ou comme enseignement d'ailleurs, au-delà du parchemin, du bac ?
Mais j'ai un très bon souvenir du prof de philo, qui était vraiment très très bien, qui expliquait bien le domaine, qui peut être un petit peu... Oui, enfin, pas quand on est en terminale, quand on a 18 ans, aborder la philosophie,
ouais,
c'est toujours un peu compliqué. Et un peu plus âgé, c'était,
ouais,
c'était plus simple. Je garde un très bon souvenir
de ça. La philo, quand on est adulte en terminale, ouais, ça change tout.
Ouais. Et puis le regard des profs sur les élèves, quoi, qui sont plus âgés, c'était pas mal.
Merci beaucoup, Apolline, d'être passée par le studio. On va vous laisser déjeuner. Il est 12h17 à Paris. Isabelle Dubose, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez quoi, vous ?
Ah bah quelquefois, je suis embarrassée. Je suis embarrassée parce que, en fait, je m'occupe du conseil en formation. Alors, quand je dis conseil en formation, on se dit, oh là là, c'est quoi cette histoire-là ? Et en fait, le conseil en formation, ça consiste à aider les gens qui ont besoin ou envie d'entrer en formation pour des raisons X ou Y, parce qu'ils veulent changer de métier, parce que, bah, ils ont besoin de changer de métier, ça peut être ça aussi, parce qu'ils ont besoin de se perfectionner, parce qu'ils ont besoin d'élargir leurs compétences. Globalement, parce que il y a toujours une raison qui est liée au travail derrière, et puis à la rémunération évidemment aussi.
Tout le monde a dans le coin de sa tête un petit rêve comme ça.
Ouais.
Et si tout d'un coup je repartais sur les bancs de l'école,
non,
apprendre autre chose,
oui,
qu'on ait eu d'ailleurs une bonne ou une mauvaise expérience auparavant.
Exactement. Alors, y a aussi ce qui est subi quand même. Hein. Il faut pas l'ignorer, puisque nous, on accueille des personnes qui effectivement vont réaliser leurs rêves. On a des personnes qui sont en complète reconversion, par exemple, qui vont se reconvertir sur un métier de cuisinier dont ils ont toujours rêvé. On a ouvert il y a peu de temps un MOOC, donc apprentissage à distance cuisine, sur lequel se sont inscrites 53 000 personnes. Voilà, il y a des choses qui font vraiment rêver. Après, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Hein. On peut effectivement être face dans son entreprise à une situation où on sait qu'il va falloir changer de boulot ou se retrouver sans travail. Et là, on se dit, oui, là, il faut que je fasse quelque chose.
Ouais.
Mais c'est subi.
Oui, il y a une forme de pression.
Ouais.
En fait, 60% des personnes qui viennent faire appel à vos conseils de formation et qui demandent une formation professionnelle pour adultes, 60% de ces personnes sont des demandeurs d'emploi à l'heure
actuelle.
Oui,
absolument.
Donc là, il y a une double pression. Il y a, est-ce que je vais réussir à me former ? Est-ce que je vais réussir ensuite à utiliser cette formation pour trouver un emploi ?
Alors, en vérité, aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé dans le monde de la formation, c'est qu'on est bien dans le cadre de la formation professionnelle. Mmh. On sait bien que derrière, il y a un objectif qui est un objectif professionnel. Les personnes nous arrivent avec cet objectif professionnel en tête. Donc, le conseil en formation, justement, ça sert à aider les personnes à voir d'où elles partent. Je parlais de compétences tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elles ont déjà emmagasiné? Quand on a été 18 ans cuisinier, mais on a emmagasiné beaucoup de savoir, beaucoup de compétences. Donc déjà, faire un petit point, puis se dire « j'ai tout ça, ça fait beaucoup de bien ». Et puis à partir de là, se dire « vers quoi je vais ?». Donc le conseil en formation, c'est ça, c'est arriver à trouver quelque chose au bout du compte, qui va permettre d'avoir du travail, de faire quelque chose de satisfaisant, et puis de s'organiser pour pouvoir rentrer en formation de manière, oui, de manière un peu tranquille.
Aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de la vie, avec la robotisation dont on nous prédit qu'elle va supprimer des millions d'emplois dans les années à venir et dans le monde, on ne peut plus se projeter sur un seul métier pour toute une vie?
Non, on estime qu'aujourd'hui, une personne qui a 35 ans va changer 6 à 7 fois de métier. Hein. Je ne parle pas d'entreprise, de métier dans sa vie professionnelle. Pour des personnes plus âgées, ça peut paraître complètement fou, mais c'est vraiment la réalité d'aujourd'hui. Ça va très vite.
Alors, ce qui est fou, c'est que les jeunes diplômés veulent déjà aussi se reconvertir. Il y a des chiffres incroyables qui circulent. Je crois que vous aviez fait une étude. Il y a 42% des moins de 30 ans qui envisagent de changer d'orientation, alors qu'ils sont sortis de leurs études il n'y a pas très longtemps. C'est quand même, ils sont plus nombreux que la population active en général.
Bah, moi, je ne suis pas surprise de, ça. Alors, pour deux raisons.
C'est surprenant, moi, je trouve.
C'est que quand on part, effectivement, et quand on fait des études, on a une vision qui est ce qu'elle est. Et cette vision, quand on termine ses études, on la confronte au monde professionnel. Et la confrontation au monde professionnel nous dit quelquefois bien d'autres choses que ce qu'on a pu imaginer. Donc on peut quelquefois être très déçu, puis on peut découvrir des choses. Et il y a aussi un phénomène qui est un phénomène courant, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la durée comme on l'était il y a 40 ans. On change, on s'est évolué, on s'est bougé.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec une auditrice qui nous appelle de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous laisser vous présenter parce que je n'ai pas votre nom là sous les yeux, mais je vous en prie.
D'accord. Bah écoutez, je suis Françoise Noël Joty, proviseure du lycée d'adultes de la ville de Paris. Et je vous appelle parce que je viens d'écrire un livre justement sur les personnes qui reprennent des études. Mmh. Un livre qui s'appelle « Je croyais que l'école ne voulait pas de moi ». Et qui témoigne donc de ces parcours absolument extraordinaires, de ces héros du quotidien en quelque sorte, qui viennent au lycée le soir après leur journée de travail.
Alors qui sont-ils justement? Parce qu'on a entendu en début d'émission une de nos collaboratrices de France Média Monde qui est passée par ce lycée pour adultes. Globalement, qui sont-ils ces adultes qui reviennent au lycée?
Alors, il y a deux grands types de publics. Il y a d'une part des jeunes gens qui se sont essayés un petit peu aux réalités de la vie professionnelle, mais qui s'aperçoivent que sans diplôme, ils n'arrivent pas à évoluer. Donc, ils ont des regrets et reviennent donc faire un cursus complet en entrant en seconde, souvent, première, terminale. Et puis une deuxième catégorie de personnes qui a mûri son projet, qui est plus mature, des personnes qui ont plutôt 35, 40 ans et plus, on a même des retraités parfois, qui sont des personnes qui ont toujours regretté de ne pas avoir eu le baccalauréat, qui se sentent en quelque sorte sur la touche et qui viennent donc pour avoir ce fameux diplôme qui signe aussi une certaine appartenance à la nation, parce qu'on partage grâce au baccalauréat une base de connaissances commune, et puis qui envisagent grâce à ça une conversion professionnelle.
Oui, c'est intéressant de parler de ça à la veille des résultats du baccalauréat justement en France, qui reste, c'est vrai, comme vous dites, un rite de passage en tout cas et un passage obligé. Mais ceci dit, vous dites finalement, bon, quand on entend les histoires comme ça, ce sont de très belles histoires qui font rêver, mais c'est pas si simple. Il y a aussi des gens qui ne parviennent pas à réaliser cet objectif.
C'est vrai. Alors, c'est pas simple du tout parce qu'il faut réussir à concilier sa vie privée, parfois familiale, certains ont des enfants, sa vie professionnelle et sa vie scolaire. Il est vrai que sur l'ensemble des personnes qui s'inscrivent dans un tel établissement, tout le monde ne parvient pas à avoir le baccalauréat. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que toutes les personnes qui passent ici retrouvent de la confiance en leur propre capacité à apprendre et à évoluer. Et quand même, nombreuses sont les personnes qui n'ont pas envie de rester dans une case et qui, sans aller jusqu'au baccalauréat, baccalauréat vont trouver ici la possibilité d'une sorte de tremplin, de marchepied, qui va les aider ensuite à avoir un nouveau projet. Donc parfois, ils vont aller vers une licence professionnelle, par exemple en cours du soir au CNAM, vers une formation d'éducateur ou autre, qui ne suppose pas absolument le baccalauréat, mais ils ont retrouvé la bonne, le bon dynamisme pour aller vers une formation qui leur convient. Cela dit, tous ceux qui viennent au lycée et qui passent le bac vont bien ensuite vers des études supérieures. Donc il y a quand même pour beaucoup la volonté de reprendre son parcours en main, de faire effectivement des études et d'aller vers un horizon qui leur convient bien mieux que ce qu'ils sont obligés de faire actuellement.
Si vous aviez un conseil à nous donner, puisque vous avez la gentillesse de nous appeler en direct au 33 84 22 71 71, quel serait-il pour tous les messages d'auditeurs que j'ai lus qui sont exactement dans les situations que vous décrivez ?
Ben, il n'y a pas de doute que le meilleur terme sans doute qui rend compte de cela, c'est l'opiniâtreté, ou autre façon de le dire, c'est l'implication et l'application. C'est grâce à ça que les personnes vont réussir leur parcours, il n'y a pas de doute. Et quand ils vont ressentir aussi une certaine fluidité, un vrai plaisir, ils retrouvent ici la saveur des études. Donc il y a cette notion de plaisir qui est complètement inhérente aussi à ce nouveau parcours.
Implication, application. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci beaucoup de nous appeler. Vous pouvez continuer, les voisins et les voisines, de nous appeler si vous aidez des adultes à retourner à l'école, ou si au contraire vous-même vous êtes acteur du propre changement de votre destin. 33 1 84 22 71 71. Isabelle Dubose, vous êtes d'accord avec ça? Implication, application.
Oui, et je suis très d'accord avec la notion de plaisir. Moi, j'ai commencé ma carrière à l'AFPA il y a quelques temps déjà, comme formatrice. Et je me souviens que le premier groupe de personnes que j'ai accompagnées...
Donc d'adultes,
D'adultes, absolument. Hein. J'avais des personnes qui avaient entre 26 ans et de mémoire, hein, je crois que la personne la plus âgée avait 48 ans. J'ai un souvenir très émouvant de la remise de diplôme à la fin du parcours, hein, avec la personne la plus âgée qui pleurait toutes les larmes de son corps. Et évidemment, on s'est un peu précipité vers elle et on lui disait mais c'est super, mais ne pleurez pas. Et elle disait mais vous ne vous rendez pas compte pour mes enfants ce que ça représente. Et puis pour moi, je pensais jamais que je pourrais le faire.
Qu'est-ce qu'on obtient? Des formations qualifiantes? Qu'est-ce qu'on obtient exactement d'ailleurs quand on retourne comme ça via l'AFPA?
Alors, quand on arrive à l'AFPA, on va vers des titres professionnels qui sont les titres du ministère du Travail, donc qui sont reconnus partout, bien sûr. On peut également aller vers des certificats de qualification qui sont les certificats des branches professionnelles, puisque nous travaillons avec les branches professionnelles. Et l'AFPA agit également dans certaines régions au niveau de l'apprentissage. Voilà, donc il y a
alors, on ne peut pas, via l'AFPA, rejoindre par exemple les bancs de l'université.
Alors,
ou dans une étape ultérieure.
Dans une étape ultérieure, absolument. Et puis, les titres professionnels, on parle de titres, on pourrait dire les diplômes, hein, effectivement, sont des diplômes qui sont de niveau bac, de niveau bac plus 2, voire plus, hein, puisqu'on a par exemple un diplôme de développeur informatique qui est du bac plus 3. Donc, simplement, nous sommes à l'AFPA dans le monde professionnel.
Donc, ça va être des formations beaucoup plus concrètes, en fait.
Alors,
hein,
c'est
beaucoup moins de cours théoriques.
C'est extrêmement concret. On veille évidemment à l'acquisition de certaines bases si elles ne sont pas là. Mais c'est là où je dis, en définitive, il ne faut pas non plus s'en faire trop sur l'endroit d'où on part, parce que c'est en formation aussi que l'on complète ce que l'on sait déjà. Donc, il faut bien avoir en tête qu'on arrive en formation, on fait un point sur ce qu'on sait, sur ce qu'on sait moins, voilà, parce qu'on est tous comme ça. Et puis en formation, eh bien voilà, on va compléter les éléments qui peuvent manquer à la base.
C'est ça. Il faut prendre en fait sa propre vie comme un puzzle. Hein,
et c'est exactement ça.
Et on n'arrive jamais sur une page blanche quand on est adulte et qu'on retourne en formation, y compris si on change complètement de métier. Vous restez bien sûr avec nous, Isabelle Dubose, suite de notre émission sur les adultes qui retournent à l'école. Alors l'école avec un grand E, hein, quel que soit le type de formation. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler pour témoigner, pour dialoguer avec Isabelle Dubose, pour demander des conseils au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve juste après le flash, dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Restez avec nous, les voisins.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Et si on reprenait le chemin de l'école ? C'est le cas de milliers d'adultes qui décident chaque année de reprendre des études ou de les commencer parce qu'ils estiment qu'ils ont quitté l'école trop tôt. On en discute avec vous, Isabelle Dubose, directrice du conseil en formation à l'Association de formation professionnelle des adultes, l'AFPA, qui est le premier opérateur de formation professionnelle en France avec 140 000 personnes adultes donc, hein, formées chaque année. Et bien sûr, vos témoignages, les voisins et les voisines, je pense d'ailleurs aux voisines en particulier qui, une fois leurs enfants grandis, ont envie de prendre leur formation en main. Appelez-nous aussi si c'est votre cas, 33 1 84 22 71 71. Camille Néron attend vos appels.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Et tout de suite, nous sommes en ligne avec Marie-Hélène Simard. Bonjour.
Bonjour, Madame Bastide.
Vous êtes psychologue au Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Vous êtes donc à Québec, au Canada, dans une université de près de 45 000 étudiants. Le Canada est un pays où, en fait, personne ne s'étonne vraiment de voir des adultes plus âgés que les étudiants suivre des cours à l'université.
En effet, on estime, là, les dernières statistiques en 2004-2005, estimées à près de 40% des effectifs étudiants. Et ça, c'est si on incluait dans la définition d'adulte les gens qui avaient déjà un diplôme universitaire. La vraie définition de candidat adulte, elle est plus restrictive. C'est un étudiant qui est âgé de 21 ans ou plus, qui n'a pas d'études collégiales, qu'on appelle, ou universitaires. Et l'expert très important, c'est qu'il s'est absenté au moins pendant 2 ans du système scolaire. Quand on inclut cette définition-là, là, c'est plus restreint que 40% des effectifs. Là. On dit l'an dernier, il y avait à peu près 1600 adultes avec cette définition-là qui ont fait une demande d'admission en tant qu'adultes. Bien sûr, ils ne se sont pas rendus nécessairement jusqu'à la fin du processus d'admission, mais il y a eu quand même 1600 demandes d'admission.
Oui, c'est ça, candidature. Mais pour ces adultes, finalement, c'est un retour ou une découverte tardive des études?
C'est un peu les deux. Hein. On sait que le marché du travail a plus d'exigences là, au niveau... On demande une main-d'œuvre qualifiée et souvent, ça inclut un diplôme universitaire. Alors, il y a des gens qui sont déjà sur le marché de l'emploi et pour avoir de l'avancement, de meilleures conditions de travail, vont faire un retour aux études. Mais il y a des gens qui ont cessé tout de suite. Nous, au Québec, on appelle comme après le lycée pour vous, là, après secondaire 5. Et vont revenir après que les enfants soient plus grands. Et là, c'est plus de 2 ans d'absence là, sur les bancs d'école. Là. Mmh. Il y en a certains très, très âgés. C'est une petite minorité, mais j'ai même vu quelqu'un qui avait 80 qui désirait revenir. Il y avait un diplôme universitaire et qui disait, ben moi, j'ai été comptable toute ma vie, mais là, je voulais faire des études en philosophie. Alors, quand les étudiants... me disent, ben, je suis trop vieux pour revenir aux études, ben, c'est toujours relatif. Hein?
Oui, c'est une forme de réalisation personnelle, mais la plupart du temps, c'est tout de même un retour aux études très utilitariste, tout de même pour évoluer dans sa carrière, dans son métier.
Tout à fait, pour la majorité.
Mmh. Quelles sont leurs difficultés à l'université, dans une université canadienne?
Ben, ceux qui arrivent entendent vraiment avec la définition, comme je l'ai dit plus tôt, qui n'ont pas d'études universitaires, qui doivent faire certains cours préalables pour entrer dans le programme qu'ils désirent, ces gens-là ont vraiment une structure, ils ont un encadrement très personnalisé. Et ce programme-là s'appelle d'ailleurs admission aux adultes. Alors, ces gens-là, même avant d'être admis, ont une séance d'information pour savoir comment bien réussir son retour aux études. Lorsqu'ils sont admis dans ce programme-là, il y a vraiment une soirée d'accueil pour ces gens-là. On les informe aussi comment ça fonctionne, le système universitaire. Et il y a des conseillers à la gestion des études qui sont vraiment attitrés à ces personnes-là, tout au long, là, pendant 1 an, je vous dirais. Et il y a aussi, en bout de piste, quand les gens n'arrivent pas à s'adapter vraiment, après même une session, ben, comme tout autre étudiant, ils peuvent venir nous consulter gratuitement au centre d'aide aux étudiants.
Il y a vraiment un programme, en fait, qui soutient le retour des adultes à l'université parallèlement aux cours qu'ils suivent avec les autres étudiants, c'est bien ça?
Oui, et c'est je pense, depuis les années 80.
Mm.
Par contre, la personne qui a déjà un baccalauréat et qui fait un retour aux études et qui est admis directement dans son programme, là, il n'y a pas de structure comme telle. c'est les mêmes ressources d'aide que tout autre étudiant. Et là, ça, c'est un peu malheureux parce que ces gens-là ont tant d'incertitudes. Il y a un manque d'entraînement aussi aux méthodes de travail, d'études, tout ça. Alors, souvent, eux, ben, ils vont venir nous consulter au centre d'aide, là, souvent dès la première session. Ça va être la seule ressource d'aide pour eux, là. C'est déjà pas mal, mais c'est quand même...
Vous qui les connaissez sur le plan psychologique, hein, en tant que psychologue, est-ce que vous trouvez qu'ils sont aidés tout de même dans l'ensemble aussi par une maturité, par une histoire, un parcours préalable dans leur réussite ou pas tant que ça?
Ah oui, moi je trouve que ça fait partie de leur force. Pour ça, j'aime beaucoup travailler avec eux. J'ai beaucoup d'admiration. Ils ont beaucoup de courage hein, de revenir aux études. Là. Ça demande beaucoup de sacrifices financiers ou autres. Mais c'est ce qui, effectivement, distingue des plus jeunes. Ils ont une meilleure connaissance de soi. Hein, ils connaissent plus leurs forces. Ils veulent pas perdre de temps. Hein. Ils se disent, bon, mais là, je suis un peu plus vieux. Je sais vraiment dans quoi je veux me diriger.
Vous pensez
alors,
à des parcours? Choix
est mûrement réfléchi.
Vous pensez à des histoires en particulier, des gens que vous avez croisés qui vous ont marqué?
Moi, chaque début de session, que ce soit en août ou en janvier, je vais faire une petite conférence pour les gens, justement, qui font un retour aux études. Et il y a toujours deux témoignages d'étudiants qui ont fait déjà un retour aux études. Et ça, c'est très marquant pour les gens qui arrivent. C'est très inspirant. Et il y a une dame qui faisait un retour aux études dans la trentaine. Elle faisait des ménages. Et là, elle disait aux nouveaux qui arrivaient, écoutez, j'ai pleuré. Là, mes cours de mathématiques, là, c'était extrêmement loin. Même que j'ai échoué le premier cours, alors de ne pas se décourager, ils pouvaient le refaire là, sans être exclus du programme. Et là, maintenant, cette dame-là, elle est rendue, elle a une maîtrise en relations industrielles ou en administration. Mmh. Et maintenant, elle est vice-présidente d'une compagnie importante, là, qui est le Rossecar, là, au Québec, là, une compagnie de chocolat. Alors, c'est vraiment très inspirant, là. Alors, malgré ce qu'elle voulait dire, de ne pas se décourager, malgré tous les efforts là, qu'elle avait faits.
Tout est permis, en somme, surtout chez vous au Canada.
Ce que j'observe beaucoup de ces étudiants-là, c'est qu'ils vont effectivement persévérer rapidement. Ils ne vont pas tarder à aller chercher de l'aide et ajuster leur méthode de travail parce qu'ils se disent « je ne veux pas perdre de temps, c'est un investissement pour moi de revenir aux études ». Contrairement aux étudiants plus jeunes, ils vont dire « ah ben je vais me reprendre la prochaine session » et là ils attendent, puis oups, jusqu'à temps que oups. Peut-être qu'ils vont être exclus du programme, là.
Merci beaucoup, Marie-Hélène Simard. Je rappelle que vous êtes psychologue au Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval, qui se trouve à Québec, au Canada. Merci et très bonne journée chez vous.
Je vous remercie. Au revoir.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Isabelle Dubose, directrice du conseil en formation à l'association de formation professionnelle des adultes en France, à l'AFPA. Qu'est-ce que vous pensez de la situation canadienne, de l'encadrement des adultes dans les universités?
Il y a beaucoup de similarités avec ce que nous faisons, nous. C'est-à-dire que le conseil en formation, c'est aussi... C'est d'abord préparer les personnes à entrer en formation, puisque entrer en formation, c'est se remettre en question, mais c'est aussi tout un tas de choses concrètes, c'est comment je finance ma formation.
Sauf que là, c'est à l'université et qu'en France, il y a beaucoup moins d'encadrement et d'écoute spécifique pour les adultes.
Alors, à l'université, sans, peut-être pour l'AFPA, ça n'est pas le cas, parce que on est bien effectivement sur une dimension. Voilà, conseil en formation, c'est tout ça. C'est d'où je pars, où je vais, quel est le meilleur choix qui s'offre à moi. Alors, sachant que on ne devrait pas oublier dans tout ça nos collègues de Pôle emploi, les conseillers en évolution professionnelle qui font aujourd'hui un travail extraordinaire et qui aident les personnes à s'orienter. Nous, pour ce qui nous concerne, on les aide à bien déterminer. Choisir les morceaux de formation qui sont OK pour eux. Et puis, on les aide aussi à réfléchir au financement, on les aide à financer leur formation.
Justement, j'allais vous demander qui paye en général. Alors, ces formations
qui paye en général? Et bien, les plus gros financeurs de formation professionnelle en France, ce sont les régions. Enfin, les entreprises en premier, les régions, effectivement.
Quand on reste au sein de l'entreprise et qu'on se forme tout au long de sa carrière professionnelle.
Voilà. Les entreprises, première structure de financement, les régions, qui sont effectivement elles aussi d'énormes pourvoyeuses de formation. Et puis ensuite, voilà, toute une, l'État évidemment participe au financement de la formation professionnelle. Mais c'est un peu compliqué quand on est particulier
de s'y retrouver. C'est extrêmement compliqué de s'y retrouver et de savoir surtout quelle est la bonne formation sur le plan de la qualité.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, quelle est la bonne formation sur le plan de la qualité, puis quelle est la bonne formation pour moi, et puis quand j'ai trouvé la bonne formation, qu'est-ce que je fais exactement? Est-ce qu'il faut que je fasse tout? Ou est-ce qu'il y a des choses que je sais déjà faire? Et puis, s'il y a des choses qui sont difficiles, comment je m'y prépare?
Oui, alors, il n'y a pas longtemps, là, on discutait du cas d'une ancienne collaboratrice, d'ailleurs, de France Média Monde, qui a quitté son travail ici pour faire de la décoration florale. Elle s'était renseignée, le CAP de fleuriste, aujourd'hui, forme à des décorations florales qui ne sont plus du tout adaptées à la demande, au marché, notamment pour vendre des bouquets de fleurs, par exemple, aux restaurants, aux hôtels, là où il y a de l'argent. Donc, il y a quand même un vrai problème aussi entre ces formations et les débouchés commerciaux, ce qu'on va pouvoir en faire sur le marché du travail aujourd'hui, non ? Est-ce que ces formations, finalement, se renouvellent suffisamment vite ?
Alors, pour ce qui concerne l'AFPA, nous travaillons, nous, en direct avec le ministère du Travail et donc avec les partenaires sociaux, tout spécifiquement, effectivement, sur des sujets comme ceux-là. Par exemple, il y a toute la question du numérique, il y a toute la question des formations, entre guillemets, vertes, qui aujourd'hui correspondent à des compétences qui sont véritablement recherchées par les entreprises, sur lesquelles, en permanence, nous faisons de la veille métier pour voir quels sont les besoins des entreprises.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine, Martine, qui est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Martine, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel, merci.
Nous vous écoutons.
Voilà, moi j'ai voulu réaliser un défi personnel. J'ai dû reprendre mes études à l'âge de 21 ans. Jeune mariée avec un enfant,
oui.
Un bébé.
Oui.
Et j'ai repris mes études directement en classe de quatrième parce que je voulais faire l'enseignement général et avoir un niveau, un bagage intellectuel aussi, oui. Étoffé que les autres, quoi. Oui.
Et vous vous étiez, interrompu qui, à quel âge, en fait?
Par rapport à mon niveau antérieur.
À quel âge aviez-vous interrompu votre scolarité secondaire?
Au secondaire, j'ai arrêté à 19 ans. C'était l'enseignement technique ménager. C'était le ménage à l'époque.
Oui, c'est ça. D'accord.
Couture, coupe, dessin, cuisine.
Oui.
Juste ça, quoi.
Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, alors, Martine?
Là, bon, j'ai commencé en classe de quatrième, en cours d'histoire. La louche à la main, le bébé dans le dos, le livre à l'autre main. Et puis le ménage avec, sans domestique, rien. Et puis j'ai continué comme ça, j'ai repris la troisième, j'ai eu mon BTS finalement. J'avais déjà mon second fils. Et puis mon compagnon a dû voyager vers la France. Je l'ai rejoint. J'ai toujours eu envie de continuer et je n'ai pas pu faire la seconde. Puis j'allais dans un collège de la place, dans le cinquième. Là-bas, avec la religieuse directrice de l'établissement, elle a jugé que j'avais un niveau pas très mauvais, mais bon, que j'étais trop vieille pour être avec des enfants de 13 et 14 ans en seconde. Et finalement, j'ai intégré la classe de première.
Oui.
J'ai commencé avec 6 de moyenne, mais au final, j'ai eu 10 de moyenne générale pour la terminale.
Oui.
J'ai eu mon examen de français.
Oui.
En terminale. J'ai dû rentrer et j'avais une très bonne amie qui m'envoyait les cours puisque j'avais pas suivi le programme camerounais. J'ai néanmoins présenté les deux bacs.
Est-ce que vous avez obtenu votre baccalauréat, Martine? Je me doute bien que c'est vraiment, on vous entend raconter votre histoire. C'est un long parcours, difficile souvent d'ailleurs à résumer en quelques minutes.
Très difficile.
Oui. Mais ça je veux bien imaginer.
J'ai eu mon bac.
Oh, en fait, bravo. Ouais.
Au Cameroun.
Oui.
Et puis, problème, tribulation. 15 ans après, je suis retournée à l'université.
Eh bien, sacré parcours, en tout cas. Et de quoi vous êtes le plus fière aujourd'hui, finalement, Martine?
Je suis très, très fière d'avoir pu faire mes enfants, qui sont les nés à 42 ans. Et j'en ai eu 3. Et j'ai fait un parcours pas mauvais. pas mal.
Oui, pas mal du tout. Pas mal du tout, oui. D'accord. Tout ça après avoir interrompu en classe de quatrième.
Dans la fiscalité.
Merci beaucoup, Martine. Je suis désolée, il faut qu'on laisse la parole aussi à un autre voisin qui veut absolument s'exprimer. Et c'est vraiment une occasion aujourd'hui, hein, parce que je pense que ce n'est pas si fréquent, finalement, que vous racontiez tout ce parcours du combattant. Bravo encore. On en laisse la parole à Ahmed qui nous appelle de Dakar. Bonjour, Ahmed.
Bonjour Emmanuel.
Je crois qu'Ahmed, vous nous appelez, pas pour nous parler de vous-même, mais peut-être pour rendre hommage en somme à votre maman qui a eu aussi un parcours assez singulier et surprenant.
Oui, un parcours très impressionnant. Parce qu'après la retraite, ma maman est retournée à l'université. Oui. La même année où j'ai eu le baccalauréat, et mon frère, lui, il était déjà en fac. Donc, elle s'est inscrite en archéologie et gestion du patrimoine en Guayaquil parce que j'étais au Cameroun avec elle. J'ai quitté le Cameroun en décembre.
Donc, alors attendez, votre maman qui travaillait auparavant, je crois, à la radio, hein, mais qui voulait reprendre des études en art et gestion du patrimoine est repartie à l'université, donc très tardivement.
Elle est retournée à l'université. Oui.
Avec votre frère, quasiment dans le même groupe, la même classe, le même diplôme.
Oui. Quasiment dans le même département.
Je ne sais pas si ça a fait plaisir à votre frère, non?
Pas trop. Avoir sa maman à la maison et avoir encore sa maman à l'école, c'est pas évident. Devant ses camarades, non, c'est pas évident. Parce qu'il arrivait que lorsqu'ils faisaient des cours complémentaires, ils étaient dans la même classe.
Oui.
Et parfois même sur le même banc. Donc, ta maman est ta maman et à l'école, elle est encore ta camarade et tes copains sont à côté. Tu te sens un peu à part.
Oui. Et alors, elle se permettait de donner des conseils en tant que maman?
Oui, des conseils. Et devant les enseignants, dont ils devaient se tenir à carreau, ce genre de trucs. À présent, elle fait un master à la gestion du patrimoine, archéologie surtout.
Ah oui, elle s'arrête plus, là.
Elle fait pas passion.
Ah oui, elle va aller jusqu'au doctorat, là. Oui.
Elle est en retraite, donc elle a vraiment le temps de le faire.
Alors, est-ce que vous voulez lui passer un petit message en direct, Ahmed? Parce que tout de même, vous avez une mère hors du commun.
J'ai une mère, comment je voudrais, je voudrais lui rendre hommage parce que cela me donne du courage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent les cours, qui abandonnent l'école, qui sont jeunes. Mais quand tu vois ta maman à 5 ans, 8 ans qui retourne sur les bancs, ça te donne envie de continuer tes études, de ne pas te désespérer.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Ahmed. Isabelle Dubose, je voudrais qu'on termine cette émission tout de même en donnant des conseils, parce que c'est vrai que la route est tout de même longue, souvent, semée d'embûches. Je ne parle pas de formation qualifiante très courte pour acquérir une nouvelle compétence au sein d'une même carrière, finalement, mais plutôt de gens qui changent de voie. Aujourd'hui, on a aussi des processus de validation des acquis de l'expérience pour obtenir de vrais diplômes. Mais tout ça est long et compliqué, contrairement à ce qu'on peut imaginer.
Pas tant que ça. Pour ce qui concerne la formation professionnelle et les titres du ministère du Travail, la VAE, par exemple, la validation des acquis de l'expérience, c'est quelque chose d'assez simple parce que nous aidons les personnes à faire le point, effectivement, sur leurs compétences, à choisir le titre, le diplôme qui correspond le mieux à leur expérience. Et puis ensuite, on les met en situation de montrer qu'elles savent faire ce métier. Là. Donc pas de choses compliquées à écrire, pas de gros rapports, pas de... Et nous avons fait une expérience l'an passé avec le ministère du Travail de VAE collective où on partait des
validation
besoins
des acquis d'expérience,
où on partait des besoins des entreprises sur les territoires, où on travaillait avec Pôle Emploi, où on allait chercher des personnes qui étaient un peu en déshérence, qui cherchaient du travail, et où on a eu des résultats extraordinaires effectivement. En moins de 6 mois, avec des taux de validation de l'expérience.
Sur quel genre de parcours, quel genre de métier?
Alors, des métiers qui étaient des métiers en tension sur les territoires. Donc, ça peut.
Il y avait de la demande.
Il y avait de la demande des entreprises, voilà. Et donc derrière.
Bâtiment, alors, restauration, des choses.
Oui, voilà, tous ces métiers-là. Derrière, taux de validation supérieur à 80% et taux de retour à l'emploi supérieur à 80%, ce qui est quand même extraordinaire. Voilà, donc des belles expériences et des parcours qui sont en définitive assez courts. Donc, faut pas avoir, moi, un conseil, aucune idée préconçue. Ne jamais hésiter, et se faire conseiller. Il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir du conseil partout. Ne jamais hésiter à bien réfléchir, à bien regarder ce qu'on est, à bien regarder où on veut aller.
Et pour toutes les formations à distance, c'est-à-dire notamment via les MOOC, hein, oui. Qui sont proposées via l'AFPA, alors là, c'est ouvert à un public beaucoup plus large que ceux qui sont dans l'Hexagone.
Complètement,
et,
oui.
Et pour cause, hein, oui. Via la digitalisation, c'est ouvert à des publics francophones qui peuvent être loin. Merci beaucoup Isabelle Dubos. Pour en savoir plus sur l'association de formation professionnelle des adultes, l'AFPA, on peut aller sur votre site.
Absolument.
L'AFPA.fr. Et puis bien sûr, tout est noté à la page des 7 milliards de voisins. Oui.
Nous avons des choses intéressantes aussi. Si vous voulez découvrir comment les gens se forment concrètement, nous avons des journées portes ouvertes. La prochaine est en septembre. Vous pouvez visiter les centres, parler aux personnes qui se forment, parler aux formateurs, travailler sur votre financement.
Et discuter sur des forums aussi.
Voir.
Merci infiniment d'être passé par le studio. De 7 milliards de voisins.
First there, K-I-S-S-I-N-G in front of me. Then there H-O-L-D-I-N-G, hands. Well, I can't S-T-A-N-D the fact that I'm forgotten. I can't be alive either, cheek. Cause I'm not missing him, I just don't like a show off and I'm not jealous. I just wish they'd go off, why don't they? If you see K-fuck, just fuck off and fade away. Fade away. Nah, 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 I'm gonna tell you all his secrets. Did you know about the time he couldn't wait? He should have gone back home and changed his little shorties instead of sporting wet patch jeans for our first date. Oh, honey, I could D-double-L. Right, and tell us who you are and where you've been. Boy, you better watch your mouth, cause I'm director of the show, and I will break you as I go. So do it elsewhere, and not in my face. Go to the movies, come back home, go to her place, cause it's not nice seeing kisses on another. Break you as I go. All your skeletons to all try it and tell us who you are and where you've been. Oh, you better watch your mouth, cause I'm director of this show, oh, and I will break you as I...
Vous êtes nombreux à nous demander de l'aide pour trouver des bourses d'études, et Dieu sait que c'est pas facile. C'est pourquoi nous accueillons régulièrement dans cette émission Sinatou Saka en studio. Bonjour Sinatou.
Bonjour Emmanuel.
Vous fouillez la toile pour informer les étudiants, et aujourd'hui vous nous parlez des bourses de master qui sont offertes aux étudiants africains pour étudier en Afrique par la fondation allemande Konrad Adenauer, du nom du chancelier, du fameux chancelier allemand qui a finalement géré l'Allemagne en ruine après la guerre, puisqu'il était chancelier de 49 à 63. Alors expliquez-nous de quoi s'agit-il et quelles sont ces bourses.
Alors depuis 15 ans, donc, la fondation Konrad Adenauer, dont l'objectif est de renforcer la démocratie et de consolider la politique étrangère de l'Allemagne, offre 20 bourses par an aux étudiants du continent africain de moins de 30 ans. Deux conditions, donc avoir sa licence et faire son master dans son pays d'origine. Donc attention, ne vous méprenez pas, la fondation ne donne pas des bourses pour aller étudier en Allemagne, car elle préfère aider un plus grand nombre d'étudiants qui restent sur le continent que d'aider finalement très peu d'étudiants qui iront étudier en Allemagne. Donc la bourse s'élève à 50 000 francs CFA par mois pendant un an, renouvelable une fois.
Donc ça fait 76 euros par mois. C'est pas énorme en même temps, mais pour étudier en Afrique, ça peut être suffisant.
Oui, cette bourse peut être un très bon complément pour payer les frais de scolarité souvent élevés dans des universités privées en Afrique. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec Léna Ba, donc, qui a bénéficié de la bourse lorsqu'elle était étudiante à l'UCAD. Et elle m'a dit que cette bourse lui avait permis de régler des frais annexes comme l'achat de livres et le transport.
Mmh. Quels sont les domaines concernés par cette bourse? Il faut postuler pour quel type de formation pour avoir le plus de chances d'obtenir,
cette année, les candidats qui postulent dans des formations scientifiques seront pris prioritaire. Mais pour les étudiants qui sont dans d'autres domaines de formation, la fondation reste très ouverte.
Comment est-ce qu'on postule ?
Pour postuler, vous devez constituer un dossier composé des pièces suivantes, donc qui sont généralement demandées, donc le formulaire de candidature à retrouver sur le site de la fondation, un CV, une lettre de motivation, deux lettres de recommandation, bien évidemment des copies de vos diplômes et de vos bulletins de licence. Et une fois votre dossier prêt, vous pouvez l'envoyer au bureau de Dakar pour les Sénégalais et au bureau d'Abidjan pour tous les autres.
Quel conseil vous donneriez ? Est-ce qu'il y a énormément de candidats ? Est-ce que la sélection est drastique ?
Alors, si votre dossier est accepté, donc vous ferez partie des 40 candidats invités à un entretien début décembre. Et pour les conseils, j'ai interrogé donc Outé Bokandé, conseillère scientifique à la Fondation Adenauer de Dakar. Elle privilégiera les candidats qui ont un engagement social. Alors, c'est-à-dire que plusieurs étudiants sont par exemple actifs au sein d'associations de lutte contre l'utilisation des sachets plastiques, d'autres militent au sein d'associations pour l'éducation au planning familial, et certains facilitent même le dialogue interreligieux. Donc les voisins, si vous avez aussi des engagements associatifs, n'hésitez donc pas à le mettre en avant dans votre lettre de motivation. Autre conseil, j'ai discuté avec d'anciens boursiers, notamment Marcel Gomi, qui est en première année de master en communication à Subdeco. Son conseil, les candidats doivent absolument s'intéresser au contexte politique et économique allemand.
Merci beaucoup, Sinatou Saka. Tout est noté, bien sûr, pour postuler pour cette bourse sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Lundi, 7 milliards de voisins, je laisse les clés de la maison à Sandrine Mercier pour quelques semaines et vous réagirez à la question suivante. Peut-on se passer de viande? Voilà, à lundi et merci encore à vous tous de votre fidélité.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.